Bonjour et bienvenue dans l'émission « Les tisseuses et les tisseurs du vivant ». Cette émission est consacrée aux paysans et aux paysannes, aux artisans et aux artisanes, habitants et habitantes des Vosges, de la plaine aux montagnes. Ils et elles transmettent ou apprennent, se réapproprient des savoir-faire perdus, réinventent les traditions populaires. Ils et elles créent un monde plus juste, en cohésion avec leurs convictions écologiques, en symbiose avec les autres vivants. De leurs mains, ils et elles transforment la matière, tissent des liens entre humains et humaines, plantes et insectes, animaux et minéraux. Les tisseuses et les tisseurs du vivant, des métiers et des savoir-faire d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi s'assied-on sur une chaise ? Chaises et fauteuils sont omniprésents dans le quotidien de nos sociétés occidentales. Si l'invention de la chaise remonte à l'Antiquité égyptienne, ce n'est qu'à partir de la Renaissance qu'elle entre dans les maisons les plus aisées, et à partir du XVIIIe, elle devient un meuble populaire en Europe. Au cours du Moyen-Âge, les tapissiers et les tapissières développent leur activité. Puis vient le style Renaissance, avec des fauteuils plus confortables, garnis de grains. L'histoire des fauteuils suit celle de nos sociétés, de l'invention de la modernité et du confort matériel. Nos histoires personnelles sont liées aux meubles qui ont peuplé nos imaginaires d'enfance. Je me souviens très bien d'un fauteuil rouge, fauteuil d'allaitement de ma mère, qui a accompagné mon enfance et mon adolescence. Il n'était plus confortable depuis quelques années déjà, mais j'aimais m'y asseoir pour le vécu et la mémoire qu'il portait en lui. Lucille Sévrac est tapissière d'ameublement dans les Vosges, à Basse-sur-le-Rue. Elle conçoit des fauteuils, notamment des fauteuils d'allaitement, des meubles de style ou contemporain, mais aussi des éléments de décoration. Elle crée des histoires et des vies aux meubles en les démontant, les rénovant, ou en les créant à partir de soie, de cuir, de crin animal ou végétal. Dans cet épisode, elle nous parle de son savoir-faire traditionnel, des matières et teintures naturelles qu'elle aime utiliser, de velours, de coton, de lin et de bois. Elle réalise à la main et à la machine la fabrication et la rénovation d'assises de sièges et d'éléments d'ameublement, comme les rideaux. Elle travaille à partir de la carcasse nue d'un fauteuil ou d'un canapé qu'elle habille de tissu après l'avoir garni. Elle nous présente son atelier qui donne sur les montagnes, ses outils, les étapes de la fabrication, nous parle de la manière dont elle a acquis ce savoir-faire et de la mémoire des meubles. Bonne écoute sur Radio Guémozo.
Alors, je suis Lucille Sévrac, tapissière d'ameublement. Donc avant, j'avais un atelier à Remiremont que j'ai déménagé en juillet dernier pour Basse-sur-le-Rue, donc dans les montagnes.
Tu viens d'où à la base, toi ? T'es de la région ou t'es...
Pas du tout. Je viens d'Aurillac, dans le Cantal. Donc oui, d'autres montagnes. Hein. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que j'ai dû vite partir pour les études, parce que dans le Cantal, il n'y a pas grand-chose à faire dans les études supérieures. C'est assez limité, donc surtout, les métiers d'art comme ça, c'est particulier. Donc oui, j'ai dû partir. Je suis partie en Bourgogne, à Autun, faire un diplôme des métiers d'art. Puis j'ai enchaîné après avec une licence pro artisan designer.
C'est quoi, du coup, les études en métier d'art ? Enfin, déjà, qu'est-ce que c'est, les métiers d'art ? Est-ce que toi, pour toi, en tout cas, pas forcément une définition, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi, être artisane ou...
Nous, en fait, on est défini comme métier d'art parce qu'on est dans une liste, en fait, de métiers d'art. Après, artistiquement parlant, je sais pas si on n'a pas tout le temps notre mot à dire artistiquement. Disons qu'on est plus souvent, je dirais, exécutant. Après, forcément... Quand on a des clients à soi, on influence le client sur ses choix, on l'accompagne. On pourrait faire plus de création, oui. Mais voilà, c'est plus une question de goût, je dirais. Après, c'est sûr que techniquement parlant, on a un métier vraiment particulier qui ne peut pas s'improviser. Il y en a qui essayent, je ne dis pas que c'est mal. C'est bien de voir, en fait, effectivement, comment on peut faire un fauteuil. C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'il peut y avoir dedans.
Si tu veux, tu peux commencer par nous présenter un peu ton atelier, nous expliquer ce qu'il y a comme matière, qu'on voit un peu.
Alors oui, on a tous les dans mon atelier provisoire, du coup. Donc, comme beaucoup de tapissiers, je travaille dans mon salon. Voilà, mais dans quelques mois, l'atelier sera sous la maison. Du coup, ce sera beaucoup plus grand, aéré, avec de la place pour accueillir les clients. Ce sera plus sympa. Voilà, mais en attendant, voilà, c'est dans le salon, avec une jolie vue sur les montagnes, mais voilà. Donc là, c'est surtout la table de garnissage et de coupe, avec les tissus, la ouate.
C'est quoi la ouate ?
La ouate, c'est ce qu'on met en finition, juste avant de mettre le tissu, en fait, qui vient gommer toutes les imperfections et avoir un petit côté moelleux sur le fauteuil. Donc en ce moment, à l'atelier, là, je suis en train de refaire un fauteuil Voltaire. J'ai un fauteuil cabriolet et une chaise Louis XVI. Voilà. Et donc là, cette semaine, c'est tout en traditionnel. Donc en crin végétal et animal. Voilà. C'est pas forcément souvent que j'en fais, mais voilà, c'est...
C'est clair. Bah, bon. Là, tu vois, en m'expliquant ce qu'il y avait dedans, à chaque fois, je suis surprise de la technicité. Des objets, en fait.
Ah, c'est assez impressionnant, le nombre de couches différentes, le nombre d'heures qu'on peut passer juste pour une chaise. Effectivement, ça, les gens, souvent, ils s'y attendent pas du tout. Et voilà, c'est vraiment... Voilà, je pense que notre métier, c'est plutôt une complexité technique, quoi. C'est surtout ça qui en fait un métier rare et classé, certainement, dans les métiers d'art pour ça, quoi.
Il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de matériaux... qui n'existait pas avant, forcément. Donc oui, on travaille avec du crin végétal. Ça ressemble un peu à du foin. ou on peut travailler avec du crin de coco aussi. C'est un peu plus rebondi, on va dire. Ça fait un peu plus des boucles. Et ensuite, on vient terminer une dernière couche avec du crin animal. Ça, c'est encore plus agréable, plus rebondi, en fait. Et voilà, ça permet de mieux terminer le fauteuil. Voilà. Et en fait, on vient créer l'assise et créer grâce à du piquage, en fait. On fait des points avec une grosse ficelle. Et ça, on vient modeler, en fait, les contours de l'assise, la hauteur et les contours. Parce qu'à la base, c'est juste on enveloppe du crin. Donc, on a un peu comme une espèce de boudin.
Donc, tu as fait une formation en métier d'art. Est-ce que tu t'es direct orientée vers la tapisserie d'ameublement ?
Non. Moi, j'ai commencé par un CAP, un bac pro, plutôt dans la communication graphique et l'enseigne. Parce que mon objectif, c'était plus de faire architecte d'intérieur. Après, je me suis rendu compte que architecte d'intérieur, ça allait être beaucoup d'ordinateurs. Ce qui n'était pas prévu de base quand j'étais plus jeune. Je pensais que l'architecture d'intérieur, c'était beaucoup de dessins. Enfin, c'était ça de base, disons. La technologie n'a pas joué en ma faveur. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un métier qui reste dans la décoration d'intérieur, dans l'aménagement d'intérieur, on va dire, mais plus lié à l'artisanat, parce qu'il faut que je touche avec mes mains, en fait. Il faut que je fasse quelque chose de mes mains. Et là, ça a été la révélation, ouais, de trouver le métier de tapissier d'ameublement. Là, c'est clair que ça réunit tous les critères, quoi.
Et donc, tu disais que la technologie avait fait qu'il y avait peut-être une part moins de dessin maintenant dans les métiers, comme l'architecture d'intérieur
Ah ouais, complètement. Enfin, il y a du dessin, mais 3D. Après moi c'est pas ma passion l'ordinateur, oui. donc moi je suis bien dans un métier qui peut pas évoluer, il évoluera toujours, mais c'est un métier où on ne peut que se servir de ses mains, on ne peut pas le déléguer à une machine, quoi.
Je vais te montrer en même temps, même si on voit pas.
Bah oui.
Alors, on utilise pour dégarnir, on utilise un ciseau à dégarnir. Ça, c'est pour enlever tout le revêtement du fauteuil, le crin qui en tient la veille ou de la mousse, voilà, pour le mettre à nu et avoir juste la carcasse pour repartir à zéro. Donc, on a un ciseau à dégarnir. On a un maillé en bois, tout simplement. Voilà. Après, on utilise beaucoup aussi on a comme un petit pied de biche, en fait. Des petits pieds de biche, on en a plusieurs. Soit pour enlever les agrafes, c'est un arrache-agrafe en fait. Soit pour enlever les semences. Ça, c'est ce qu'on utilisait avant l'agrafe, en fait. Et les semences, donc après, quand on travaille... Donc moi, je travaille à l'agrafe pour un gain de temps.
C'est ça.
Ouais. Okay. Pour moi, c'est un gain de temps. Je suis pas à l'aise comme les anciens tapissiers ou ceux qui n'ont appris qu'à la semence.
C'est quoi la semence ?
Et la semence, c'est des tout petits clous. C'est des tout petits clous, en fait, qui vont remplacer les agrafes, en fait, tout simplement. Pour maintenir le tissu et ensuite vraiment le fixer totalement. Voilà. Sauf que c'est un peu plus large que les pointes d'agrafe. Voilà, donc ça abîme un petit peu plus le bois, je trouve. Il y a un débat chez les tapissiers, donc je ne veux pas enflammer la toile. Voilà. Et ça se pose avec un ramponneau. C'est un petit marteau où d'un côté on a un pied de biche et de l'autre côté l'embout est aimanté. Et surtout, bah, le marteau est fin, quoi. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai comme autre type ? On a...
Et donc, j'ai vu que tu avais fait pas mal de fauteuils d'allaitement.
J'en ai fait un. J'avais fait une collection qui s'appelait Minuscule. Donc là, c'était que de la création. Et c'était vraiment destiné à la mère et l'enfant. Voilà. Après, c'est un monde qui est particulier. Le monde de l'enfance, c'est... Oui, ça c'est vrai. Niveau du mobilier, de la décoration, c'est un monde qui est un peu... c'est une niche, on va dire, voilà. Et effectivement, le problème aussi, c'est quand on fabrique quand on fabrique un fauteuil comme ça, il faut faire un, deux prototypes. Donc c'est de l'argent engagé qu'il faut normalement répercuter sur après une série de fauteuils. Voilà. Et effectivement, la mise en œuvre de fauteuils comme ça, ça fait très vite monter les chiffres, quoi, en termes de matière, de main d'œuvre, beaucoup. Donc ouais, ça fait, c'est des collections où ça touche une certaine clientèle. Et c'est vrai que dans le monde de l'enfance, on a du mal à se dire qu'on va mettre autant pour une si petite période, quoi. Même si en soi, c'est un fauteuil d'allaitement, que ça se voit pas que c'est destiné à l'allaitement, c'est juste que il est ergonomiquement parfait pour l'allaitement.
J'ai vu sur ton site que t'étais pas mal, que t'essayais en tout cas d'utiliser des matières naturelles, que tu faisais un peu de teinture naturelle aussi.
Oui, pour cette collection-là, j'en avais fait beaucoup de teinture naturelle. J'essaie de continuer, mais c'est vrai que la teinture naturelle, c'est vrai que je la fais sur des tissus qui sont plus pour de la décoration et pas pour du siège, en fait. Et le problème, c'est ça, c'est l'application sur du siège. En fait, il faut une matière qui soit naturelle à 100%, qui n'ait aucun blanchiment, aucun après, normalement. Donc, dans l'ameublement, c'est un peu compliqué à trouver et qui justifie d'un certain nombre de martingales et qui soit vraiment applicable sur du siège, quoi, parce que c'est pareil. C'est bien de se dire qu'on veut partir sur du 100% naturel, mais si c'est pour que dans 5 ans la couleur soit passée et que le tissu soit usé, en fait, c'est pas le but de notre métier, quoi. Nous, c'est de faire des fauteuils qui tiennent très très longtemps. Si le tissu doit être changé dans 30-40 ans, ce serait le top, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile d'appliquer ça au siège, mais après, effectivement, pour ce qui est coussin et rideau, c'est totalement faisable.
Et comment tu fais de la teinture naturelle, justement? Tu récupères toi-même les plantes?
Alors on peut, ça dépend juste quelle couleur on veut. Il y en a qu'on peut trouver par ici, donc ça, il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres, malheureusement, qu'on est obligé d'importer. Et après, c'est des décoctions dans des grosses cuves d'eau qu'on fait chauffer, ouais.
Et c'est quoi la plante que tu utilises le plus, du coup, quand tu fais ça?
Ça dépend. Pour la collection minuscule, du coup, c'était un vert sauge un peu que je voulais. Vert sauge, vert kaki. Et un terracotta, vraiment qui se rapproche de la couleur chaude de la terre. Brique presque. Et du coup, là, la couleur chaude de terre, c'était plus du cachou, de l'écorce de cachou. Donc ça ne vient pas d'ici. Et sinon, le vert, c'est avec de la fleur de tanaisie. Et du coup, ça, oui, c'est européen. On en trouve partout, quoi. Moi, ce que j'aime le plus, ce qui m'inspire le plus, c'est les matières. C'est vraiment les matières et les textures. Et en termes de tissu, on est gâtés. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est assez inspirant, quoi. On peut avoir de la fausse fourrure, de la bouclette. On peut avoir des mélanges de lin, laine. Et ça, c'est des textures que j'adore. J'adore travailler. C'est un peu dur à travailler, mais vraiment, le rendu, je trouve que même visuellement, on voit la différence. Peut-être moi qui la vois, c'est tout. Voilà, le fait de travailler plus dans des velours de coton, avec cette douceur, ouais, c'est hyper agréable. Ouais, c'est vraiment, ça dépend. Moi, j'ai vraiment deux choses qui me plaisent le plus. C'est vraiment le côté très nature, coton, lin, laine. Ça, c'est avec plus des coloris ben, naturels, forcément. Bon, après, souvent, les tissus qui sont dans des compositions comme ça, c'est des tissus qui ont des couleurs assez neutres et naturelles. Parce que la teinture, on ne peut pas aller dans des couleurs flashy. Puis ce ne serait pas forcément cohérent non plus. Et j'ai ce côté-là. Et en même temps, par exemple, pour de la rénovation, sur des fauteuils qui vont être plutôt de style ancien, c'est vrai que dans les maisons d'aujourd'hui, ben, je trouve que c'est hyper intéressant de travailler le motif et la couleur, quoi. Et là, il faut y aller. Il faut y aller à fond, quoi. C'est trop dommage qu'une pièce comme ça, qui coûte cher à rénover, qu'elle soit invisible dans la pièce juste parce qu'on n'a pas envie de s'enlacer. C'est trop dommage, quoi. Moi, j'aime bien proposer à mes clients voilà, du bleu, du orange. If language were liquid, it would be rushing in. Instead, here we are in a silence more eloquent than any word could ever be. These words are too solid, they don't move fast enough. To catch the blur in the brain that flies by and is gone, and is gone. And is gone, 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 and is gone. I'd like to meet you in a timeless, placeless place, somewhere out of context and beyond all consequences. Go back to the birds and on Little West 12. It is not far away, and the river is there, and the sun and the spaces are all laying low. And we'll sit in the silence that comes rushing in and is gone, and is gone, 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 gone. And is gone. Again, they don't mean what I meant, they don't say what I said. It's just the crust of the meaning, with realms underneath, never touched, never stirred, never even moved through. If language were liquid, it would be rushing in. Instead, here we are in a silence more eloquent any word could ever be. And is gone, 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 and is gone, and is gone, and is gone. Mais voilà, j'ai quand même quelques tissus en stock au cas où. Et puis bah, pour faire de la création, parfois aussi, c'est bien d'en avoir un petit peu. un petit peu, voilà.
Mais oui, un peu tout. Après, sinon, bah, principalement, moi, en stock, il me faut de la toile blanche. Donc ça, c'est la toile de finition qu'on met avant de mettre le tissu. Et il me faut de la toile forte. Ça, c'est...
Et toi, c'est quoi ton... C'est enfin, je sais que moi, j'ai souvent des souvenirs assez précis de meubles d'enfance, tu vois. Toi, c'est quoi ton meuble?
En fait, c'est sur ça qu'on
est-ce
va
que
venir
t'as un meuble qui te souvient hyper bien, ou une
et
chaise
ensuite,
ou...
il faut aussi de la toile d'embauche.
Ou un objet en lien enfin, avec tes souvenirs.
C'est vrai que je me souviens pas mal de meubles qu'on avait quand on était petit. Ouais, ça, c'est sûr que je me souviens de tous. Enfin, je me souviens de tout l'intérieur, ouais, des endroits où j'ai vécu. Après, de là à en avoir un plus que d'autres. Mais c'est vrai que ouais, les gros canapés en cuir de mes parents, je m'en souviens très très bien. C'est pareil, ma mère, elle avait une sculpture de main. Mais c'était pas une sculpture dans une matière logique pour moi, dans une sculpture à l'époque. Et ça ressemblait à un espèce de cuir. C'est effectivement en grandissant que j'ai compris. J'ai compris que c'était du cuir de basane, qu'une fois mouillé, on peut travailler comme on veut. Et quand il sèche, il garde la forme qu'on lui a donnée. Et je m'en suis seulement rendu compte après en faisant mon métier que c'était ça. Et du coup, j'ai enfin retrouvé cette matière qui m'intriguait tant. Je me disais, mais comment ils ont pu faire ça?
Oui, donc, oui, c'est sur ton site aussi que tu parles de créer... une sorte d'empathie avec l'objet, ou en tout cas créer une histoire. Pourquoi ça t'intéresse justement de... Enfin, que le meuble ait une histoire, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'intéresserait là-dedans, quoi?
Après, ça, c'est vraiment... Enfin, moi, personnellement, je suis très attachée aux objets. C'est bien et pas bien, mais c'est vrai que pour moi, chaque objet dans ma maison a une importance particulière, et c'est vrai que je me vois pas m'en séparer comme ça du jour au lendemain. Et c'est important, je trouve, d'avoir ce genre de lien avec ces objets. Ça montre, enfin, c'est vraiment... ça définit l'endroit où on habite et ça nous définit nous-mêmes. En fait, quelqu'un qui rentre chez nous, il doit ressentir, en fait, la personnalité, notre personnalité à travers... du coup, à travers le mobilier, parce que c'est quand même ça qui est quand même plus parlant, plus que le revêtement de sol ou la peinture, quoi. Et, même si ça joue aussi, mais c'est vrai que voilà, avec les fauteuils, en plus, je trouve qu'on arrive à faire, à leur faire raconter des histoires, que ce soit par le bois, la teinte qu'on y met, si on le cache ou si on le laisse apparaître, par le tissu qu'on va mettre dessus, les couleurs aussi. Donc c'est assez ça peut être assez intéressant, quoi. Ça peut révéler la personnalité d'une personne. C'est vrai qu'après comme aujourd'hui dans les maisons, il y en a beaucoup qui aiment bien les choses assez lisses, blanches, grises, assez neutres pour ne jamais s'enlacer. Alors c'est bien beau, mais c'est vrai que ça laisse rien apparaître. Et le fait d'avoir un fauteuil par exemple de famille qu'on va se dire on va rénover, il était en velours marron un peu décrépit, et là on va y mettre un tissu avec une bouclette colorée, et le bois on va juste le poncer pour le laisser brut et naturel. Voilà, ça peut être assez intéressant dans une maison comme ça, quoi, par exemple.
Et t'as beaucoup de personnes qui viennent justement avec leurs meubles de famille pour te les faire rénover?
Je dirais pas forcément beaucoup, mais oui, effectivement, la plupart des rénovations que j'ai, quand même, je pense que c'est des photos de famille. Ouais. J'ai même des clients, du coup, des fois, qui me demandent un prix et attendent un an pour pouvoir se le payer, quoi. Ça, c'est hyper chouette de travailler pour des clients comme ça, parce que je me dis, eux, ils sont vraiment le sens de l'objet, de... Ouais, c'est ça, et j'ai quand même beaucoup... Enfin, j'ai quand même pas mal de clients, du coup, quand c'est... Dans l'objectif de rénover un fauteuil de famille, c'est pour le transmettre après. Et donc ça, c'est assez intéressant aussi de se dire que ces personnes-là pensent à l'après, en fait, du fauteuil. Et se disent que si ce n'est pas elles qui le rénoveront, leurs enfants ne le feront pas forcément, alors s'il est déjà rénové. Au pire, les enfants, ils n'auront que le tissu à changer pour le mettre à leur goût. C'est vrai que c'est chouette, quoi, de voir ça, quoi. C'est sûr.
T'as des meubles de famille, toi, un peu, que t'aurais rénové à toi, enfin, je veux dire, que t'aurais récupéré?
Malheureusement, à l'époque, quand j'aurais pu récupérer des choses, j'étais encore un peu jeune. voilà, donc je ne pouvais pas vraiment les stocker. Mais par contre, moi, j'aime bien chiner et rénover après.
Donc là, par exemple, j'ai une série de fauteuils Deauville de la marque Airborne que j'ai chiné sur 2-3 ans, je crois, à peu près, même peut-être plus, pour en avoir 10. Bon, alors maintenant que je les ai, faudrait que je les rénove, mais... mais c'est déjà pas mal, ouais. Ça, c'est des produits auxquels je tiens énormément. Et même si on se dit, voilà, c'est des pièces iconiques qui ont une certaine valeur, même financière, qu'on va dire. Maintenant que je les ai, je ne me vois pas les vendre, quoi. Voilà, je me dis, voilà, j'aimerais bien les garder, justement. Et puis après, après les transmettre, ouais, c'est clair que c'est super intéressant, ouais.
Et est-ce que tu peux un peu parler du pantographe, peut-être expliquer où c'est
Ouais. Bah, le pantographe, du coup, c'est une galerie des savoir-faire. C'est au Toli. Donc, c'est Charlotte qui a monté ça. Du coup, en gros, dans cette galerie, est exposé uniquement du mobilier et de la décoration d'artisans d'art. Menuisier bénisse, donc tapissière. Il y a céramiste aussi, par exemple, pas mal pour l'art de la table, mais pas que. Il y a de la sculpture aussi. Il y a de la métallerie, bien évidemment. Ouais, c'est assez complet. Et puis, tous les 2-3 mois, ça change. Il y a un artiste peintre, photographe, sérigraphe, souvent, qui viennent exposer aussi pour habiller les murs de la galerie. Et donc, voilà. Et puis, voilà. Donc, on peut y aller. C'est toutes les fins de semaine. Et on peut y aller pour acheter... juste découvrir les artisans.
Et pourquoi ça s'appelle tapisserie d'ameublement, en fait, parce que c'est pas forcément des tapis.
Alors ça, c'est le grand mystère de notre métier. Après, oui, c'est pas des tapis, enfin, c'est pas des tapisseries. Après, vraiment, il y a des fois, il y a des tissus qui se rapprochent vraiment de ce qu'on pourrait appeler tapisserie. Le tapissier, il peut aussi travailler du mural, en fait. Travailler sur du mural, donc ça se rejoint. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas penser tapisserie d'Aubusson, quoi, tout de suite. Non, c'est vrai que c'est un mystère, ce nom.
Thank you.
je suis... Ça s'est déjà refait, c'est juste qu'on appointe, en fait. On appointe le... Quand elles veulent bien s'enlever. On appointe la toile blanche. Avant de venir la... Avant de venir la graffer définitivement, en fait. Parce qu'il y a aussi ça, en plus d'avoir plein de couches à l'intérieur... En plus de ça, on vient jamais agrafer directement du premier coup. Donc, du coup...
Comment t'en es venue à... Enfin, comment t'as découvert ça, en fait? Parce que tu m'as dit que t'avais fait donc, tes études, mais t'as fait un stage pour découvrir la tapisserie d'ameublement ou...
Ah ben, c'est vraiment le diplôme des métiers d'art. C'est le diplôme que j'ai choisi pour poursuivre après le bac pro. J'ai pas besoin de faire de stage pour savoir que c'est ça que je voulais faire. Non, pas de problème. Ben, en diplôme des métiers d'art, bon, on avait, parce que c'est plus du tout la même formule qu'avant, mais on avait énormément d'heures d'atelier. On avait même, une fois par semaine, on avait même des cours d'atelier de menuiserie. C'était assez complet. On a eu, bien sûr, beaucoup de périodes de stage. Et du coup, sur ces périodes de stage, effectivement, on a pu découvrir le métier plus approfondi. Et voilà, quoi. En licence pro, après, forcément, j'avais beaucoup plus de stages aussi dans ce domaine-là, quoi.
Ok. Et c'est pas une personne qui t'a tout transmis, quoi. C'est
non. Non, là, pour le coup, ouais, c'était vraiment parsemé entre plusieurs personnes. Et après, ben, c'est vrai que même si c'est un peu. Ça fait un peu peur de se lancer. Mais c'est vrai que je me suis vite mis à mon compte. Bah déjà parce que on s'est installé vers Remiremont et c'est vrai qu'il n'y a pas d'entreprise de tapisserie d'ameublement qui embauche par là du tout. Donc j'avais pas le choix en fait que de me mettre à mon compte. C'est vrai que c'est un peu challengeant parce que se mettre à son compte si rapidement, je trouve que c'est. Si j'avais pu, j'aurais bien aimé travailler dans une entreprise avant un peu plus. Non, c'est pas le cas. Du coup, ce qui fait que ça m'arrive même encore souvent de... Ouais, donc ça va faire presque 6 ans que je suis installée. Ouais, ça m'arrive encore souvent de tomber sur des pièces que j'ai jamais refaites ou... Donc j'ai aucune idée de comment ça veut se refaire. Mais bon, après, voilà, c'est aussi notre métier et c'est ce qu'on m'a enseigné pas mal en diplôme des métiers d'art. Parce que du coup, en diplôme des métiers d'art, on fait beaucoup de création. Donc en fait, on apprend à réfléchir d'une manière différente à chaque fois. Et c'est à nous de découvrir cette manière-là. C'est pas quelqu'un qui va nous dire la solution tout de suite, en fait. Voilà, parce qu'en fait, il n'y en a pas, forcément. Bon, sur certains fauteuils, forcément, en garniture traditionnelle, il y a quand même une marche à suivre. On n'a pas... on ne va pas inventer. Mais c'est vrai que, voilà, sur des choses un peu plus modernes, parfois, bon, ben, on y va, quoi. Il faut y aller. Puis bon, on a la chance quand même d'une communauté mais bon, c'est pas mal assez grande, mais pas trop. Et on peut s'entraider aussi entre tapissiers. C'est ça qui est assez intéressant. Quoi. On essaie de s'entraider un peu quand même. Parce que sur toute une carrière, des fois, il y a des fauteuils qu'on ne refera jamais. Ou alors, on va l'avoir, mais en fin de carrière... et on ne l'a jamais eu de notre vie. Quoi. Ça peut arriver. Il y a tellement d'assises différentes que voilà, on peut refaire du moderne comme du très ancien. Donc, ça, c'est tellement varié.
T'as une pièce préférée ou justement c'est encore une fois dans la diversité que tu plais le plus.
Après moi j'aime beaucoup le style des années 60-70. Voilà, ça c'est sûr que j'aime bien ces formes un peu sorties de nulle part ou arrondies. Ce que je trouve que techniquement c'est incroyable quand on se pose devant le fauteuil et qu'on se dit waouh, faut que je le refasse. Et là, des fois, c'est wow. Et quand on le démonte, on se dit oh, ils ont fait comme ça.
Merci d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez retrouver les créations et l'atelier de Lucile Sévrac sur son site internet. Belle journée ou soirée sur Radio Gémozo.